J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Il fait vraiment chaud, ce n'est pas habituel pour nous en métropole en tout cas. Nous avons vu dans le thème « Affronte tes géants » une vérité essentielle qui pour moi est vraiment le fondement même d'un début de cheminement vers la victoire. C'est le fondement sur lequel nous devons bâtir tout. Je voudrais voir avec vous ces éléments à rappeler, à nous rappeler. La première chose à se rappeler, c'est que nous avons Jésus-Christ qui a défait tous nos géants. Il nous a donné la délivrance du péché. Il nous a libérés de la puissance du péché. Par contre, il ne nous a pas libérés de la présence du péché. Si le péché a perdu sa puissance, il est toujours là. Un jour viendra où le Christ créera une nouvelle ciel, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Il n'y aura plus alors le péché. Et nous serons vraiment dans la perfection totale, comme le Christ lui-même. Et en attendant, nous continuons avec cette certitude que Jésus a triomphé. La deuxième chose que nous avons besoin, c'est de garder nos yeux fixés, non pas sur nos géants, parce qu'ils nous font peur, mais sur celui qui les a vaincus justement, sur le Christ. Il est le vainqueur sur la croix, mais il n'est pas resté sur la croix, puisqu'il est assis à la droite de Dieu en majesté. Il a autorité, il a reçu tout pouvoir sur terre, dans le ciel. Nous les chrétiens, nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la déclaration de foi, n'est-ce pas? Jésus est Seigneur. Ça veut dire quoi que Jésus est Seigneur? Ça veut dire justement qu'il a toute autorité, tout pouvoir, toute puissance sur toute chose. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre, dans les cieux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est vers lui que nous regardons, et le regardons, nous étant unis avec lui, nous recevons de lui la victoire qu'il a remportée. Un autre point, et je n'ai pas le temps de le développer, mais je vous laisse réfléchir à ça, c'est que, vous voyez, lorsque nous avons un souci dans notre vie, il devient un souci sur lequel nous fixons notre attention constamment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça qui existe. Mais, en tant que chrétiens, nous avons besoin de trouver d'autres choses dans lesquelles investir notre énergie à la gloire de Dieu. Et je suis sûr que ça fait partie du chemin vers la victoire. Vous voyez, si on se lève et que notre Goliath est là tous les matins et qu'on ne regarde que lui et qu'on tremble en le regardant, on va rester là pendant des années et des années. J'ai fait la connaissance d'un chrétien il y a plusieurs années. Son problème, c'était la culpabilité. Il n'arrivait pas à être convaincu que Dieu lui a vraiment pardonné. Donc on discutait pendant une heure et il repartait chez lui plein de la force et de la certitude que, oui, Dieu lui a pardonné. Et deux jours après, coup de fil, « Ah là là, je ne sais pas si vraiment Dieu m'a pardonné. » Et quand il se levait le matin, véridique, il ne faisait rien d'autre. Il restait dans sa chambre à penser à sa culpabilité. Et le soir venu, il s'endormait avec sa culpabilité. Et ça a duré des années et des années. Je lui ai dit, tu sais, le seul moyen pour toi de t'en sortir, c'est de trouver un travail. Parce que il n'avait pas de travail. Il dit, mais non, mais ah, je suis fatigué. Il dit, mais tu fais quoi de ta vie? Mais tu sais, la culpabilité, trouve-toi un travail. Eh bien, je vous assure, le jour où il a trouvé un travail, il était crevé le soir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Et il ne pensait plus à son géant. C'était un moyen d'être délivré un petit peu. Et vous savez, parfois, il y a tellement de faire pour nous, peuple de Dieu, dans l'Église, dans la communauté chrétienne, Et parfois, au lieu de dépenser notre énergie dans je ne sais quoi, à réfléchir à notre culpabilité, à nos doutes, à la pornographie, eh bien, on devrait plutôt investir notre énergie, je ne sais pas moi, à ranger des chaises, c'est plus simple, hein. À rendre visite à quelqu'un, à encourager d'autres, et c'est vraiment un moyen pour nous de grandir et de remporter la victoire. Jésus-Christ a défait les géants. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent rendre les armes, hein, vous savez. Ils savent qu'ils ont perdu, mais ils disent « Ah, oh, allez, encore un petit coup, il y en a un que je pourrais embêter. » Alors Jésus-Christ nous dit « Sachez que j'ai remporté la victoire, mais ça ne veut pas dire que vous devriez rester tranquille dans votre chambre. Vous avez un combat à mener. » C'est la certitude que Dieu nous donne dans sa parole. Nous avons besoin de prendre les armes que Dieu a préparées pour nous. Ce sont des armes préparées par Dieu lui-même. Et quand nous nous en saisissons, nous sommes vraiment vainqueurs. Nous avons chanté tout à l'heure que nous voulons prendre quoi déjà pour combattre? Vous n'avez pas fait attention aux paroles. L'épée, voilà. Et bien, l'épée qui est là, la parole de Dieu. C'est l'une des armes les plus efficaces. Pourquoi? Nous le savons. Mais parce que le Seigneur Jésus l'a utilisé le tout premier. Vous vous rappelez que le diable est venu le tenter. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il a brandi la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, trois fois. Et il n'a fait que citer la parole de Dieu. Pourquoi il a pu citer la parole de Dieu? Je vais vous dire un secret. Il allait à l'église tous les dimanches. Enfin, ça s'appelait la synagogue, mais c'est tout comme. Hein. Il a grandi dans la connaissance de la parole de Dieu parce qu'il avait des parents qui l'ont instruit dans la parole de Dieu. Ne pensez pas que Jésus, parce qu'il était le Fils de Dieu, la parole de Dieu était gravée dans son cœur sans qu'il ne l'ait entendue. Non, en tant qu'être humain, il a été instruit à la synagogue et il a appris auprès de ses parents, auprès des rabbins, la parole de Dieu. Et le jour venu, il était prêt à affronter et à remporter la victoire. Et quand vous n'avez aucun souci et que vous venez à l'église, vous recevez une parole de Dieu, vous ne savez jamais quand vous allez la brandir pour vous défendre. Peut-être dans 10 ans. Ouais, c'est vrai, Dieu a dit ça. Et je combats et je suis armé et je peux utiliser à bon escient cette arme que le Seigneur m'a donnée. Alors, ces armes dont il est question, vous savez qu'elles sont décrites dans la parole de Dieu. Et nous les trouvons dans Éphésiens, chapitre 6, que je voudrais lire avec vous. Et je voudrais vous encourager vraiment à retenir dans votre cœur qu'il y a de l'espoir pour nous tous qui menons un combat contre nos géants. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, jeter l'éponge. Parce que pour certains, à force d'être défaits, ils finissent par renoncer au combat. Non, il n'y a pas à renoncer au combat. Parce que tôt ou tard, le Christ qui a déjà vaincu tous les péchés du monde nous donnera la victoire pour nous. Donc Éphésiens chapitre 6, je lis avec vous les versets 10 à 17. Je vais vous afficher le texte si vous voulez, si vous n'avez pas de quoi suivre. Enfin, rendez-vous fort dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir contre les tactiques du diable. Car notre combat n'est pas contre les hommes, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations de ce monde de ténèbres dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme, ayant mis tout en œuvre. Tenez donc ferme, mettant la vérité comme ceinture autour de la taille, revêtant la justice comme cuirasse, utilisant comme chaussure à vos pieds l'élan que donne l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout la foi comme bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi comme casque de salut, comme casque le salut, comme épée de l'esprit, la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. L'apôtre Paul a écrit la lettre aux Éphésiens, et lorsque nous la lisons, en tout cas les trois premiers chapitres, on finit par dire « Waouh, c'est vraiment ça l'Église !» Parce qu'il a présenté le projet fabuleux de Dieu pour son peuple. Et il dit au premier chapitre que le peuple de Dieu est béni de toutes les bénédictions spirituelles, parce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, parce que Dieu nous a rachetés de nos péchés, parce que Dieu nous a adoptés comme ses propres fils. Dieu nous a fait le privilège de nous révéler l'avenir qu'il réserve à l'humanité. Dieu nous a fait grâce de nous sceller du Saint-Esprit. Nous étions morts dans nos péchés, comme tous les hommes. Mais Dieu est venu, et selon sa miséricorde, il nous a ressuscités avec le Christ. Il nous a fait asseoir avec lui. Il a décidé que nous devenions ces créatures qui vivons pour le bien et qui pratiquons le bien qu'il a préparé d'avance pour nous. Dieu a fait en sorte que les humains fâchés, les juifs et les non-juifs, ne forment plus qu'un seul peuple. Il a voulu que son Église devienne un lieu saint, le temple, l'édification construite par ses propres mains pour que l'Esprit de Dieu vienne y habiter. Il nous dit que dans l'Église, toute la sagesse de Dieu se manifeste. Et l'apôtre Paul continue, parce qu'il nous dit que l'Église est destinée à grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ, lui qui est son corps, qui est sa tête, et nous en sommes le corps. Et quand il parle de cette façon-là, nous pourrions dire, mais dites donc, mais c'est extraordinaire, c'est déjà le ciel sur terre. Alors, à la fin, tout à la fin de l'épître, il ramène les choses à la réalité en disant aux Éphésiens qui pourraient s'exciter un petit peu en leur disant, attention, ce n'est pas encore fini. Il y a un combat à livrer malgré tout. C'est vrai, moi, l'apôtre Paul, je vous ai décrit de cette façon extraordinaire. Voilà ce que Dieu réserve pour vous. Mais tout cela sera accompli parfaitement au retour du Seigneur Jésus. Mais en attendant, il y a un combat quand même à livrer. Si le Christ vous a élevé jusqu'à son niveau pour vous faire asseoir avec lui, néanmoins, les géants bougent encore. Vous voyez, ils sont sur le champ de bataille, ils sont allongés par terre, ils sont perdants, mais ils lèvent la tête quand même. Vous savez, c'est comme un petit garçon. Et donc son père lui dit, tu t'assois à table. Non, je ne veux pas. Je te dis que tu vas t'asseoir à table. Non, je ne veux pas. Le père se lève. Alors le garçon, il commence à avoir peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, parce que le père a ordonné, donc il s'assoit. Et il se retourne vers le père et lui dit, mais dans ma tête, je suis encore debout. Ça, c'est nos géants, vous savez. Le Christ les a terrassés, mais dans leur tête, ils croient qu'ils sont encore debout. Ben non, c'est que dans leur tête. La réalité, c'est qu'ils sont absolument défaits. Et l'apôtre Paul va dire aux chrétiens, vous êtes comme des soldats. Non pas des soldats qui vont perdre la guerre, mais des soldats qui vont certainement gagner la guerre parce que vous avez l'équipement numéro 1 face auquel il n'y a aucune armée étrangère qui peut remporter la victoire sur vous. Dieu vous a doté de toutes les armes nécessaires pour que votre combat soit un combat gagnant. C'est ce qu'il dit à cette église d'Éphèse, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il donne comme ordre? Revêtez-vous de l'armure. Revêtez-vous de l'armure. Les soldats romains avaient une armure complète. Vous ne pouvez pas prendre une arme ou deux. Vous ne pouvez pas choisir. C'est soit l'armure complète, soit rien. Vous ne pouvez pas partir sans l'épée. Vous allez perdre vite fait, n'est-ce pas? La ceinture, on va dire, tu vois, la ceinture, ça ne sert à rien. Mais si, elle sert à quelque chose. Sans la ceinture, vous ne pouvez pas mettre l'épée. Et sans la ceinture, vous ne pouvez pas tenir l'armure. L'armure, elle est complète. Et Dieu nous dit, il faut vraiment se revêtir de toute l'armure. Aucune vérité spirituelle ne doit être mise de côté. J'ai besoin de la vérité, j'ai besoin du salut, j'ai besoin de l'assurance que donne l'Évangile, j'ai besoin du zèle que donne l'Évangile, j'ai besoin de la foi. Et je voudrais m'arrêter particulièrement sur la foi aujourd'hui. Pendant ce temps que nous avons, le verset 16 nous dit « Prenez le bouclier de la foi ». Prenez le bouclier de la foi, ou comme vous avez l'autre traduction, prenant par-dessus tout la foi comme bouclier avec lequel vous pouvez éteindre les flèches enflammées du malin. Qu'est-ce qui nous protège contre les flèches que nous envoie le malin? C'est notre bouclier. C'est notre foi. Elle est le bouclier et l'illustration de la foi pour le chrétien. L'apôtre Paul a vu des centaines, pour ne pas dire des milliers de fois, des soldats romains. Vous savez, il a voyagé partout. Et quand il était en train d'écrire la lettre aux Éphésiens, il était enchaîné à un soldat. Donc, quand il écrivait la lettre, il y avait un soldat modèle à côté de lui, donc il devait le regarder. Ah oui, le casque. Donc, il était familier avec ces soldats et il les voyait sur la route. Et les soldats romains avaient un bouclier qui n'était pas un petit bouclier. Il faisait 1,20 m. Le bouclier, l'autre nom qu'il porte, c'est le mot porte. Le mot porte et bouclier, c'est le même mot. Parce que le bouclier devait protéger le soldat de haut en bas, de la tête jusqu'aux pieds. Et quand l'apôtre Paul dit « prenez le bouclier », ça veut dire « prenez la foi, utilisez-la de telle sorte que vous soyez protégé dans toute votre personne, dans tout votre être. » Ce n'est pas juste une partie, mais c'est l'ensemble. Regardez, je vous ai amené un bouclier. Mais ça, c'est vraiment un petit bouclier, hein. Ah, il faudrait deux fois la taille, n'est-ce pas? Comme ça, et comme ça pour se protéger. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il nous dit, prenez votre bouclier. Dans les autres armes, il dit, ayez, ayez, ayez. C'est-à-dire que le soldat, quand il s'est revêtu de son armure, ben, il est revêtu de l'armure. Par contre, le bouclier, il est à côté avec l'épée. Et donc, il faut s'en saisir pour les utiliser. Sinon, vous pouvez les laisser de côté et vous n'allez pas les utiliser. Donc, il y a ces mots-là. Prenez toutes les armes de Dieu et pour le bouclier, eh bien, prenez le bouclier. Saisissez-vous de ce bouclier afin de l'utiliser. C'est quoi la foi? La foi, c'est justement une main qui se tend pour saisir quelque chose. C'est une main vide qui se tend vers Dieu, dont la main est remplie de grâce. Nous n'avons rien à offrir à Dieu pour recevoir de lui. Nous n'avons qu'à tendre notre main. Et si mon corps a une main ou deux mains physiques, mon être intérieur a deux mains spirituelles qui se tendent vers Dieu. La foi, c'est l'élan que j'ai à l'égard de Dieu pour aller vers lui afin de recevoir de sa part. La foi, c'est vraiment la confiance que j'exerce à l'égard de Dieu. Et quand le Seigneur nous dit « prenez le bouclier de la foi », il nous exhorte à exercer notre foi. C'est un mot qu'on emploie assez souvent, hein. Nous les chrétiens, on dit « exerce ta foi ». Par exemple, les Israélites, quand Dieu leur a demandé de traverser le Jourdain, il fallait qu'ils fassent quoi? Il fallait qu'il se mouille les pieds, n'est-ce pas? Donc, exercer sa foi, c'est aller vers la rivière, elle est fermée, mais je mets quand même mon pied dedans en disant elle va s'ouvrir. Ça, c'est exerce ta foi. Exerce ta foi, c'est être dans le bateau. Et quand Jésus me dit viens, je ne lui dis pas ah, je suis bien là, Seigneur, ça va, là, tout va bien. Je me lève et je sors du bateau. Ça, c'est exercer sa foi. Exercer sa foi, c'est être comme l'oiseau qui vient se poser sur l'épouvantail. Est-ce que vous avez des cerisiers ? Quelques-uns. Hein. Notre voisin a un cerisier magnifique. Il est immense, il fait des cerises, mais vraiment magnifiques. Tous les matins, quand je me lève, je regarde le cerisier, je dis, si seulement il était à moi. Mais bon, il n'est ni à moi, ni au voisin. Vous savez à qui il appartient ? Aux oiseaux. Alors le voisin, il s'est dit, je vais quand même les effrayer. Et vous savez ce qu'il a mis ? Peut-être que vous utilisez encore cette technique, non ? En Normandie, on utilise ça. On utilise des fois des disques qu'on accroche à l'arbre en disant, les oiseaux vont voir ça et ils vont s'enfuir. Les oiseaux, ils sont malins, hein ? En fait, quand ils voient les disques, vous savez ce qu'ils se disent les uns aux autres ? Il y a des cerises, les gars, venez, venez, allez, on va manger, il y a un festin. Ah, je suis sûr qu'il se passe le mot, parce que ça ne sert à rien. Il y a tellement d'oiseaux, et l'arbre, en deux jours, il est vide. Si le voisin ne vient pas tout enlever, il disparaît vite. Des fois, les gens ont des jardins. Ils ont des tomates, ils ont des fraises, alors ils mettent des épouvantails, vous savez, une espèce de mannequin, c'est pour faire peur aux oiseaux. Et là encore, les oiseaux, ils disent quoi ? Eh, venez, il y a de quoi manger. Et vous avez les oiseaux qui viennent, qui mangent les cerises, les tomates et autre chose. La foi, c'est la capacité de réaliser que l'épouvantail n'est qu'un épouvantail et de se poser sur l'épouvantail pour ne pas rater une bénédiction de la part de Dieu. Parce que Dieu nous invite vraiment à la réjouissance, à la joie avec lui, au plaisir de le goûter lui, de jouir de ses bénédictions, de sa communion. Et parfois les épouvantails, ce sont nos géants qui nous effraient. Nous avons besoin de comprendre que là où il y a des géants, il y a aussi des bénédictions. Et nous avons besoin d'exercer notre foi, de nous saisir de notre bouclier, afin de nous poser vraiment sur ces épouvantails. Donc je vais vous afficher quelques mots là à retenir. La foi se saisit de ce que Dieu a déjà donné. Elle est la main tendue vers le Seigneur. La foi prend ce que le Seigneur offre. Voilà, la foi ou la confiance, c'est l'oiseau qui aime se percher sur des épouvantails. Nos géants n'ont pas à nous faire peur parce qu'ils nous font rater vraiment ce que Dieu a en réserve pour nous. Et avec Jésus, nous savons que ce ne sont que des géants, que des choses ordinaires qui ne nous font pas peur. Maintenant, vous pourriez dire, mais concrètement, comment est-ce que je peux me saisir de mon bouclier, le porter et exercer ma foi? Alors je vais vous donner quelques éléments pour vous aider vraiment à mettre votre foi en exercice. La première chose, c'est de se rappeler que nous avons déjà connu des victoires. Si vous êtes chrétien, vous avez déjà connu des victoires. Au moins une. La victoire sur le péché. Jésus vous a libéré. Vous vous sentez pardonné, vous vous sentez justifié, vous vous sentez en communion avec Dieu. Alors vous avez remporté cette victoire. Cette victoire doit être la première marche sur laquelle je construis ma foi, sachant que, oui, Dieu me donnera d'autres victoires. Pourquoi Dieu m'a fait triompher la première fois ? C'est afin que je triomphe avec lui d'autres fois. Deuxième chose qui me permet d'exercer ma foi, c'est en observant ce que le Seigneur fait dans la vie de mes frères et sœurs. Pourquoi, d'après vous, Dieu a voulu que l'Église soit Église, que les chrétiens se rassemblent ? Ce n'est pas pour qu'on se regarde dans le blanc des yeux, C'est pour qu'on voit la main de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. N'êtes-vous pas encouragé quand vous entendez quelqu'un vous raconter comment il s'en est sorti, comment il a fait confiance au Seigneur, comment le Seigneur lui est venu en aide? Moi, quand j'entends ça, ça me réjouit vraiment. Et chaque fois que je parle avec les chrétiens, d'ailleurs ceux qui sont les plus éprouvés sont ceux qui nous encouragent le plus. Vous savez, nous avons dans l'église une personne, elle a un cancer, c'est terrible, mais vraiment terrible. La dernière fois, mais quand je l'ai entendue, j'avais les larmes aux yeux. Elle me dit, mais Dieu est béni. Elle est venue une fois dans l'assemblée, elle a prié le dimanche matin, je vous assure, mais tout le monde était en larmes parce qu'on dit, mais comment est-ce possible qu'elle peut prier comme ça? Comment est-ce possible? Et bien, nous avons la réponse, Dieu est en elle. Seul Dieu lui donnait cette force, seul Dieu agissait en elle, et nous voyons, nous entendions sa foi s'exercer à l'égard de Dieu en disant, mais Seigneur, j'ai confiance en toi, je te bénis, je te loue, parce que tu es mon Dieu, alors qu'elle est très gravement malade. Et lorsque nous discutons avec les autres, nous sommes encouragés, et ça nous pousse à mettre notre foi en action. Le Seigneur nous dit, encouragez-vous les uns les autres pour grandir dans votre foi, justement. Dans 1 Thessaloniciens 5, 11, hein, c'est ça. Encouragez-vous, édifiez-vous les uns les autres dans votre foi pour grandir dans votre foi. Autre chose, encore, un moyen, le troisième, pour mettre votre foi en action, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, la foi, la confiance en Dieu, c'est l'obéissance. Ce n'est rien d'autre que ça. Quand Dieu a dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays vers un pays que je te montrerai », Abraham a montré sa foi, de quelle manière ? En ramassant ses affaires et en prenant le chemin de Canaan. S'il n'avait pas fait ça, il n'aurait jamais été un croyant. Jamais Dieu ne l'aurait présenté comme le modèle de la foi ou de la confiance. Mais il l'est devenu parce que Abraham a dit à Dieu, « Je fais ce que tu me demandes, j'obéis à ce que tu me demandes. » Vous vous rappelez la pêche miraculeuse? Lorsque Pierre a pêché toute la nuit, qu'est-ce qui s'est passé le matin? Elle est revenue sans rien. Il n'a rien pêché. Jésus était là. Je voudrais lire avec vous quelques paroles dans Luc chapitre 5. Versets 4, 5 et 6. Luc 5, versets 4, 5 et 6. Lorsque Jésus a cessé de parler, il a dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Vous voyez le Seigneur Jésus? Le matin, très tôt, Simon est rentré de la pêche et n'a attrapé aucun poisson. Et à cette époque-là, on pêchait toute la journée ou toute la nuit parce qu'on pêchait au jour le jour pour vivre au jour le jour. Et quand on revient sans poisson, ça veut dire qu'on va peut-être passer une journée sans manger. Et Jésus va vers Simon en lui disant, « Simon, jetez vos filets pour pêcher. » Là, maintenant, il faut se mettre à la place de Simon, n'est-ce pas? Parce que Simon, c'est un pêcheur professionnel. Il connaissait vraiment le lac de Galilée comme sa poche. Il savait où se trouvaient les poissons. Il savait que lorsqu'il a pêché et qu'il n'a rien attrapé, c'est parce qu'il n'y avait pas de poissons. Et voilà qu'un homme qu'il avait vu certainement avant, dont il avait entendu parler, parce que Jésus avait déjà commencé, il devait l'apprécier. Il devait le trouver vraiment bien. Mais seulement cet homme-là, il était quoi déjà? Charpentier. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas beaucoup de choses à la pêche. Et donc il va vers Simon en lui disant, « Simon, jetez vos filets là. » Moi, à la place de Simon, je commence à me dire, « Bon, si tu me donnais un conseil pour construire un meuble, une table, le toit, Jésus, je t'écouterai. Mais franchement, là, tu es en train d'empiéter sur mon domaine. C'est moi le professionnel quand même. Et tu me dis, « Mais j'ai pêché toute la nuit, rien. » Je n'ai rien attrapé, Jésus. Mais Simon va faire un pas plus loin. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus ? Oh, c'est vrai, j'ai pêché toute la nuit. Je peux te le dire, il n'y a rien dans le lac. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Simon a obéi à Jésus-Christ parce que la parole du Christ avait de la valeur à ses yeux. Plus de valeur à ses yeux que ses propres convictions et sa propre expérience de la vie. C'est ça qui est très important. Vous voyez, il y aura toujours des choses dans la vie qui nous diront, ton Dieu, bon, il ne sait peut-être pas suffisamment. Toi, tu connais la vie. Tu sais que depuis des années, c'est comme ça. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, regarde, tout le monde dit la même chose. Peut-être que la Bible dit ça, mais ce n'est pas vrai. Il y aura toujours un discours qui nous vient d'ailleurs, qui contredira ce que Dieu nous dit. Et maintenant, qui allons-nous écouter ? Est-ce que nous allons écouter notre propre expérience, notre propre savoir, ce que nous maîtrisons, ce que les gens nous disent de connaître de la vie ? Ou est-ce que nous pourrions dire à Dieu, c'est vrai ? Ce que tu me dis me dépasse, mais sur ta parole, je vais quand même obéir et marcher avec toi. Ça s'appelle la foi et la confiance. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai mon filet. Sur ta parole, Seigneur, je te ferai confiance. Peut-être que je galère, je n'ai pas de l'argent pour payer mes factures, mais je te ferai confiance. Mes enfants sont absolument terribles. Je te ferai confiance. La maladie dure depuis des années. Je te ferai confiance. Les médecins me disent que je n'ai plus aucune espérance. Je te ferai confiance. La vie me dit ceci, cela. Moi, je te ferai confiance. La confiance, c'est en même temps de l'obéissance. C'est ce que le Seigneur nous dit, n'est-ce pas ? Donc, il y a plusieurs choses qui nous permettent de mettre en exercice notre foi. Je les récapitule. D'abord, je me rappelle les victoires passées. Ensuite, je me rappelle et je vois que Dieu agit dans la vie de mes frères et sœurs. Je sais aussi que j'ai besoin d'obéir à la parole de Dieu. Et enfin, il y a aussi les promesses que Dieu m'a données sur lesquelles j'ai besoin de m'appuyer. J'exerce ma foi quand je me saisis des promesses que Dieu a déjà donné à son peuple et que je les laisse agir, nourrir et travailler dans ma vie. C'est très important pour moi. Vous voyez, quand vous voulez vous saisir des promesses de Dieu, il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous tenter. Il y aura toujours des flèches enflammées. La Bible nous dit, prenez le bouclier de la foi. Pourquoi ? Pour lutter contre les flèches enflammées du malin. Les flèches, c'est l'image de l'époque, hein, des arcs qui tirent des flèches. On mettait le feu aux flèches pour embraser l'ennemi. Dieu nous dit, il y aura des flèches enflammées. Le diable va nous envoyer des flèches. Et ces flèches, ce sont souvent de mauvaises circonstances, ou alors de mauvaises pensées, ou alors des pensées qui cherchent à atténuer nos péchés, les rendre passables aux yeux de Dieu, ou peut-être même acceptables aux yeux de Dieu. Alors, nous voulons nous saisir des promesses de Dieu pour lutter contre ces flèches enflammées. Je vous donne quelques exemples de flèches enflammées. Je suis sûr que vous allez peut-être vous reconnaître. Première flèche, tu ne crains rien. Ça, c'est le sentiment d'impunité parfois que nous pouvons avoir, nous, en tant que chrétiens. Tu ne crains rien, Ça veut dire, mais tu sais, le péché que tu commets, personne ne le sait. De toute façon, tu es dans ta chambre. Tu es devant ton ordinateur. Tu as un compte privé. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu es le seul à savoir ce problème-là. Alors, bah, profites-en quand même, parce que c'est pas si grave que ça, au bout du compte. Et là, nous avons besoin de prendre notre bouclier de la foi en disant, comment ça? Mon péché n'est pas grave? Mon Seigneur Jésus est mort pour mon péché. Comment est-ce que je peux considérer que le péché n'est pas grave? Il a coûté la vie du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alors oui, il est le plus grave de tous les péchés qui existent. Mon mensonge, mon péché le plus insignifiant aux yeux des autres, est le plus grave à mes yeux et aux yeux de Dieu, parce qu'il a coûté la vie à celui que j'aime par-dessus tout, c'est-à-dire mon Seigneur Jésus. Et si j'aime vraiment le Seigneur Jésus, aucun péché ne peut paraître anodin à mes yeux, parce qu'il a coûté le prix fort. Il a poussé jusqu'à la croix et la mort la plus infâme, infâme, le Christ. Deuxième flèche que le diable nous envoie. Tu sais, c'est si bon. C'est tellement bon le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui, mais le péché est bon. La Bible n'a jamais dit que le péché n'était pas bon. Il y a du plaisir dans le péché. Mais il y a aussi autre chose dans le péché. Vous savez quoi? La mort. Avec le plaisir, il y a l'amertume et la mort. Vous avez fait la même expérience que moi. Après le péché, c'est la colère contre soi-même, c'est l'amertume, c'est les regrets. Et parfois, il y a vraiment la mort. La Bible est sérieuse là-dessus. À force de commettre les mêmes erreurs, les mêmes péchés, nous pouvons aboutir à une mort certaine, peut-être pas la mort spirituelle avec Dieu, mais quelque chose en nous meurt, notre sensibilité par exemple, notre bienveillance à l'égard des autres, notre amour à l'égard des autres. Le péché n'est jamais sans conséquence, même quand il est bon. Et le diable vient nous dire, tu sais, rappelle-toi la dernière fois, c'était super, non? Alors encore une fois, ça vaut le coup. Rappelle-toi le plaisir que tu as. Et notre pensée commence à divaguer, vous savez. Mais oui, c'est vrai. Bon, allez, encore une fois, et puis ça, je m'arrête. C'est comme les coiffeurs, demain, je rase gratis. Encore une fois, et j'arrête. Mais on le dit à chaque fois. À chaque fois. Moi, quand je me suis converti, je fumais. Et après ma conversion, je sortais dans la rue pour fumer et j'avais envie de prier. Et ça me semblait une horreur d'avoir la cigarette à la bouche et prier en même temps. Ça me semblait vraiment incompatible. Ah, je me demande, il faut que j'arrête. J'ai pris mon paquet de cigarettes et vous savez ce que j'en ai fait? Je l'ai caché dans les buissons parce que je savais que j'allais retourner le soir. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ben, j'aurais dû l'écrabouiller, n'est-ce pas? Parce que, je dis, ah, vous savez, quand on se lève le matin, c'est tellement agréable de fumer une cigarette. Ce sont que des mensonges, hein. C'est pas tellement agréable parce qu'on est addict, on a la tête dans les nuages, ça sent mauvais, etc. Mais on se fait des illusions. C'était tellement bon. Et puis, à un moment donné, ben, quand vraiment j'ai décidé, j'ai froissé le paquet, j'ai arrêté d'un instant à l'autre. Parce que je savais que ça ne plaisait pas à Dieu et que j'avais vraiment envie de plaire à Dieu, que Dieu peut être mes délices. C'est si bon, mais il y a une bonté que Dieu nous accorde qui est encore meilleure parce que nous pouvons trouver notre plaisir en Dieu et nous pouvons répondre quand nous avons des flèches enflammées qui nous sont envoyées comme ça. Je sors mon bouclier en disant « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est Dieu qui est mes délices. Ce que je trouve bon dans le péché, je peux le remplacer par autre chose. Ça va, vous tenez le coup là? Je continue? Bon, autre chose. Un autre trait du malin, une flèche. C'est bon, péché mignon. Peut-être que vous vous dites ça. Mais vous savez, J'ai vraiment pas beaucoup de défauts. Quoique je suis là, hein. Mais c'est pas si grave que ça quand même. C'est par là que le diable nous tient. Parce que ce péché mignon aux yeux de Dieu, il est horrible, il est moche. Demandez aux autres, peut-être qu'ils le trouvent odieux, votre péché. Et le diable nous fait croire qu'il y a des péchés mignons. Tu sais, Dieu te connaît de toute façon. Il sait que tu as une petite faiblesse. C'est pas si grave que ça. Dieu va pas se vexer pour si peu que ça. Il faut des... D'abord, est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Non, que je sache. Alors, franchement, tu vas pas te priver de ça quand même. Vas-y, fonce. Et nous tombons dans le piège du péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a que des péchés horribles aux yeux de Dieu qui méritent la condamnation à mort dont Dieu nous a délivrés. Et le top du top, c'est cette flèche que le diable nous envoie. C'est la faute de Dieu. Écoute, toi chrétien, depuis quand tu pries? Ah ouais, depuis 5 ans. Est-ce que Dieu t'a répondu? Si vraiment il s'intéressait à toi, si vraiment il voulait que tu sois un vainqueur, eh bien il t'aurait répondu depuis longtemps. Alors maintenant, comprends bien que c'est vraiment sa faute, Dieu n'a rien à faire de toi. Alors arrête et vas-y, fonce dans le péché. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Là, une seule chose, et nous avons absolument besoin de le comprendre. Et Dieu ne me doit rien. Dès l'instant où vous croyez en tant que chrétien que Dieu vous doit quelque chose, vous êtes sur la mauvaise voie. Parce que vous pouvez être le super héros chrétien de tous les temps, Dieu ne vous devra jamais rien. Parce que tout est par grâce. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit Paul aux Corinthiens? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Jamais Dieu ne nous devra quoi que ce soit. Et ce que Dieu nous donne, il le donne par pure bonté de sa part. Alors même si Dieu ne m'exauce pas, alors même si Dieu me dit « je ne te réponds pas », je n'aurai pas le droit de me fâcher contre lui, de lui dire que c'est sa faute, parce que ce n'est pas le cas en réalité, parce que Dieu ne m'est pas redevable. C'est moi qui suis redevable. Vous vous rappelez la parabole que le Christ a racontée en disant « un homme avait un serviteur, il rentre le soir ». Le serviteur rentre le soir. Qu'est-ce que le maître lui dit? Assieds-toi, mon petit bonhomme, je vais te préparer ton repas et je vais te servir. Mais non. Qu'est-ce que le maître dit à l'esclave? Ah, t'as bossé toute la journée. Maintenant, tu vas me préparer à manger, tu vas faire ce que je te demande. Et une fois que tu as fini de me servir, seulement là, tu pourras manger. Et Jésus pose cette question en disant, mais est-ce que parce que l'esclave a fait ce qu'il fallait, est-ce que le maître lui est redevable? La réponse est non. Le maître ne doit rien à son serviteur. Donc le diable nous envoie des flèches enflammées, mais Dieu, heureusement, il nous a donné un bouclier par lequel nous nous défendons de toutes les subtilités du malin. Il veut nous détruire, il veut embraser notre cœur par le feu. Nous avons de quoi éteindre les traits du malin et de résister à ses attaques. Alors, nous avons besoin de prendre notre bouclier et quand nous le faisons, vous savez quoi? Nous allons être attaqués. Parce que des fois, en tant que chrétiens, nous avons l'impression que lorsque nous exerçons notre foi, on va être tranquille. Mais en fait, quand le diable voit avec notre bouclier, vous savez ce qu'il dit? Ah lui, il va falloir que je l'agresse. Hein. Parce que les êtres qui n'ont pas leur bouclier, ils sont déjà perdants. Ceux qui n'ont pas leur bouclier, ils sont tellement vulnérables qu'ils ont déjà reçu des flèches et ils sont perdants. Celui qui a son bouclier, c'est celui à qui l'ennemi va s'attaquer pour le faire tomber. Nous avons besoin de prendre notre bouclier et de le garder sur nous constamment. Contrairement aux soldats, notre bouclier en tant que chrétien n'a pas à être déposé. Parce qu'on ne sait pas quand le diable va nous attaquer. Et la parole de Dieu nous dit, prends ton bouclier pour être prêt au jour mauvais. Vous savez qu'il y aura un jour mauvais pour vous, comme pour moi? Oui, un jour ou l'autre, nous serons éprouvés d'une manière ou d'une autre. Si nous avons pris notre bouclier et que continuellement nous le portons avec nous, au jour mauvais, les traits incendiaires, enflammés, seront éteints par le bouclier. Et notre bouclier, la meilleure des choses, c'est qu'il est absolument résistant à 100%. Il ne pourra pas s'enflammer, il ne pourra pas se consumer. Je ne sais pas si vous connaissez le slogan de le canard enchaîné. Ce n'est pas forcément la référence des chrétiens, mais leur slogan c'est « La liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas ». Si vous ne vous servez pas de la liberté, elle va se perdre. C'est la même chose pour la foi. La foi ne s'use que si on ne s'en sert pas. Autrement dit, si je me sers de ma foi, que je l'exerce, elle va se renforcer, elle va se développer. Plus elle est utilisée, plus elle devient résistante à l'ennemi, à l'ennemi au diable. Maintenant, je voudrais nous encourager en tant que peuple de Dieu à savoir que nous avons besoin de lutter et d'utiliser le bouclier de la foi, non pas seulement individuellement, mais collectivement. L'erreur que nous commettons en tant que chrétiens, c'est que très souvent, pour ne pas dire tout le temps, nous lisons la Bible comme si elle nous était adressée à nous personnellement, point. En réalité, la Bible, la lettre aux Éphésiens par exemple, est adressée non pas à un chrétien de l'Assemblée, mais elle est adressée à qui ? À l'Assemblée, au collectif. Bien sûr, elle me parle à moi individuellement, mais elle doit me parler surtout à moi comme membre d'une communauté. Et ça, c'est le plus important. Quand Paul dit « Prenez le bouclier de la foi », il n'est pas en train de vouvoyer les chrétiens par politesse. Il est en train d'utiliser un pluriel en parlant de tous les chrétiens qui ont besoin de prendre leur bouclier. Avez-vous déjà vu une armée composée d'un seul soldat ? Ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Il faut une foule de soldats pour composer une armée. Les chrétiens sont une communauté et une foule de soldats pour composer une armée qui va résister ensemble aux attaques du mal. Les Romains ont envahi le monde et fondé l'un des plus grands empires grâce à des tactiques développées avec le temps, des tactiques de lutte collective. L'une des tactiques les plus fameuses, c'est la tactique de la tortue. Vous avez une image. Vous voyez, ils étaient en rang de 6 ou 7. Les soldats latéraux gardaient leur bouclier debout. Ceux qui étaient à l'intérieur mettaient leur bouclier sur la tête. Et ça formait une carapace. On appelait ça la tortue. Ben vous voyez, ça, c'est la meilleure des protections contre les flèches du mal. Mais ça ne peut pas rentrer, ça ne peut pas atteindre les soldats. Ils sont tellement protégés, et grâce à cette tactique-là, ils ont vraiment défait toutes les armées de l'époque. Et ils ont remporté la victoire et fondé cet énorme empire. Et bien dans les églises, dans votre église, dans la mienne, nous avons besoin de tortues. Nous avons besoin d'être des tortues, c'est-à-dire un peuple uni, solidaire, nous protégeant les uns les autres. Si vous êtes un soldat avec votre bouclier, vous vous défendez contre ceux qui sont devant vous, mais vous êtes vulnérable par l'arrière. Si vous êtes deux, vous êtes déjà plus fort. Si vous êtes une tortue de soldat, là vous êtes vraiment invulnérable. Et c'est ce que le Seigneur désire pour nous. Il dit, prenez le bouclier de la foi et défendez-vous comme un peuple qui appartient au Seigneur. Il y a une autre tactique que les Romains ont utilisée, c'est le mur. Ça, c'est une autre image de bouclier. Je crois que je n'ai pas d'image de mur, mais les soldats qui étaient au premier rang tenaient leur bouclier Et les boucliers étaient les uns à côté des autres pour faire un mur infranchissable. Donc l'armée adverse, quand ils attaquaient avec leurs flèches, c'est le premier rang qui prenait les flèches. Et les rangs derrière, eux, ils avaient le temps d'attaquer l'ennemi et même passer par-dessus le premier rang pour aller envahir les adversaires et les terrasser. Et ça ne pouvait pas être possible avec un soldat, il en fallait vraiment plusieurs. Malheureusement, parfois, au lieu d'être dans une tactique de torture ou de mur, qu'est-ce que font les chrétiens ? La guerre civile. Vous savez ce que c'est que la guerre civile ? Ben, c'est qu'au lieu de se défendre contre l'ennemi, ben, on s'attaque les uns les autres. Et là, quand on s'attaque les uns les autres, on est les plus vulnérables. Alors là, vous pouvez être sûr que Satan a déjà fait beaucoup de dégâts et de ravages. En réalité, les guerres civiles ne doivent jamais avoir lieu dans les églises. La Bible est remplie d'encouragements, de mise en garde contre les guerres civiles, contre les chamailleries entre les frères et les sœurs, contre les disputes, contre des choses qui peuvent être même plus graves. Nous avons besoin d'être solidaires les uns des autres, et à ce prix-là, nous pourrons vraiment gagner. Je voudrais finir par vous dire que le meilleur bouclier que nous pouvons prendre, vous savez, le meilleur bouclier, c'est Dieu lui-même. Notre foi, ce n'est pas une foi en quelque chose, c'est la foi que nous plaçons en quelqu'un. Et quand je me saisis de la foi, la meilleure chose que je puisse faire, c'est de me saisir de mon Seigneur et de me placer derrière lui, ou de faire en sorte qu'il soit devant moi et qu'il soit mon bouclier. La Bible nous parle de Dieu qui est notre bouclier. David utilisait ça comme nom donné à Dieu. La toute première fois où Dieu dit qu'il est un bouclier, c'est quand il s'est révélé à Abraham et lui dit « Ne crains rien, je serai ton bouclier et ta récompense très grande. Je serai ton bouclier, c'est-à-dire je vais te défendre. » Mais vous savez que le Christ, ayant voulu être notre bouclier, il a paré les flèches qui nous étaient adressées. Sauf que lui, il n'avait pas d'autre bouclier que son propre corps. Les flèches l'ont transpercé. Le péché de les envoyer, notre péché, les flèches envoyées par le malin l'ont transpercé pour que nous soyons protégés. Jésus-Christ a été notre bouclier. Et il a été enflammé à cause de nous, et il est mort à cause de nous, pour que nous soyons vraiment dans la résistance, et que notre bouclier ne disparaisse jamais, que notre foi dure. Alors je vous encourage à mettre votre confiance dans le Seigneur, à placer votre confiance en lui, sachant qu'il est devant, et que tous les traits, toutes les flèches, qui vous seront envoyés, sachez que Jésus les a déjà reçus dans son propre corps et qu'il est vivant aujourd'hui pour vous donner la victoire. Aucune flèche ne peut vous détruire parce que Jésus-Christ l'a détruite au paradis. Une histoire pour terminer. Quand j'étais petit, vous avez remarqué que souvent quand j'étais petit, j'étais au collège et je devais faire la route à vélo jusqu'au collège qui était à 8 km de la maison. Et voilà que des jeunes ont décidé de me rendre la vie compliquée. C'était mes géants à cette époque-là. Et je vous assure, le soir, quand je sortais, j'avais peur. Qu'est-ce qui allait m'arriver ? Parce que quand j'arrivais, ils m'arrêtaient, ils prenaient le vélo. Il faisait ce qu'il voulait avec mon vélo, et moi je pleurais, j'attendais. Et puis un jour j'ai eu l'idée géniale de demander à un cousin qui avait très mauvaise réputation. Tout le monde savait qui il était. Je lui ai dit, est-ce que tu veux m'accompagner s'il te plaît ? Il m'a dit, pas de problème. Et j'ai fait la parade avec mon cousin devant eux. Je vous assure qu'ils ne m'ont plus jamais embêté. Ils ont vu que j'avais quelqu'un qui pouvait être mon protecteur. Ben nous, nous avons Jésus-Christ. Ce n'est pas notre cousin, c'est notre frère. Et il nous protège véritablement. Amen.